Épisode 87. Un épisode entièrement enregistré avec le nez, qu'il est conseillé d'écouter en restant à une distance prudente de son poste de radio, et durant lequel il n'est pas exclu que le narrateur crache de ci de là quelques petits bouts de poumons sanguinolents. Un épisode surtout post-utopiel, dans lequel il sera donc question de l'anthologie des utopiels, c'est dire la rigueur avec laquelle ce podcast narrant est organisé. Et pendant que les utopiales s'achevaient, nous quittait Marie Laforêt, dont on discutait un ou deux jours plus tôt entre gens de bonne compagnie en sirotant quelques blancs d'Alsace, c'est-à-dire si je me rappelle pas comment on en est arrivé à parler d'elle, et je sais plus non plus qui m'a conseillé de jeter une oreille sur cette reprise. Je soupçonne quand même fortement Étienne Barrier, quoi qu'il en soit, c'est l'occasion ou jamais d'écouter ça.
Marie douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie colère existe aussi, fais bien attention. Je te l'ai jadis 100 000 fois sur tous les tons. Marie douceur a beaucoup, beaucoup de patience. Oui, mais un jour tu verras entrer dans la danse. Marie colère avec des éclairs dans les yeux. Je sais lequel aura le plus peur de nous deux. Marie douceur est avec toi bien trop gentille. Si tu
Je ne vous raconterai pas mes utopiales. De toute façon, l'abus de substances alcoolisées en tout genre n'aide pas à se faire de jolis souvenirs. Et je me souviens être descendu du train à Nantes, je me souviens avoir atteint le bar de Madame Spock, je me souviens de quelqu'un criant « c'est ma tournée », et puis 4 jours plus tard, je me suis réveillé gare de l'Est, roulé en boule sous un banc, avec un slip qui ne m'appartenait pas en guise de bonnet. Donc j'imagine que ça devait pas être trop mal. Faute de souvenirs, me reste l'anthologie des utopiales, un pavé particulièrement dodu cette année, 440 pages et 14 nouvelles au sommaire. Et globalement, c'est plutôt une bonne cuvée. Alors bon, commençons par évacuer le moins bon, qui n'atteint d'ailleurs jamais le tout à fait mauvais, mais il y a quelques textes assez décevants tout de même, du style « Impulsion naturelle » d'Olivier Paquet. Une nouvelle assez courte, trop courte sans doute, qui laisse entrevoir quelques pistes intéressantes, mais qui ne fait que survoler son sujet et dont la conclusion semble tomber de nulle part. Plus embêtant, le cas de Cylène Edgar et de Jean-Laurent Del Socorro, deux auteurs que j'aime bien en plus, et qui se plantent tous les deux pour les mêmes raisons. La première, dans Inconnu à cette adresse, revisite le texte quasi éponyme de Cressman Taylor, qui racontait sous forme épistolaire la montée du nazisme en Allemagne au début des années 30, et que Cylène Edgar transpose en France un siècle plus tard. Le second, dans Les femmes du congrès dansent aussi, refait le parcours qui a amené Alexandria Ocasio-Cortez à être élue il y a pile poil un an au congrès américain, en replaçant ce parcours dans un futur relativement proche. Le problème de ces deux nouvelles, c'est qu'elles n'apportent absolument rien de plus que les histoires dont elles s'inspirent, ni une variation originale, ni un point de vue singulier. Elles ne font que les paraphraser en ajoutant un vague habillage science-fictif pour justifier leur présence dans ces pages. Et du coup, au bout du compte, ça n'a aucun intérêt. Dernier texte décevant, Sublimation de Melandoris. Et pourtant, j'ai longtemps cru qu'on tenait là un texte assez formidable, ce qu'il reste par certains aspects, notamment lorsqu'il nous invite à une plongée virtuelle dans un cortex humain. Melandoris nous refait le voyage fantastique en version 3.0, c'est vachement bien documenté, c'est précis dans la narration et dans les descriptions scientifiques, et il y a tout pour faire un excellent texte de hard science, sauf que ce que cette exploration révèle n'est pas du tout à la hauteur. Tout à coup, on tombe de très haut, on découvre que le monde en question est une dystopie qu'on n'ose plus en écrire depuis au moins un demi-siècle, hormis à la rigueur quand on s'adresse aux 10-12 ans, et encore. Et c'est vraiment dommage parce que, encore une fois, sur toute une partie du récit, c'est parfait. Une autre nouvelle qui m'a paru s'adresser davantage à un public adolescent qu'aux adultes, mais de manière plus convaincante cette fois, c'est Les Disparus de Valoria de Sylvie Denis. Parce qu'il met notamment en scène une poignée de gamins coincés dans une réalité virtuelle, mais pas que. Le texte relève d'une forme de cyberpunk un peu désuète, pas franchement original dans sa mise en scène, mais sur le fond comme sur la forme, l'ensemble fonctionne bien, si ce n'est qu'il n'offre pas vraiment de surprise. Alors, j'ai pas lu l'anthologie jeunesse des Utopiales qui est parue en même temps que celle-ci, mais j'ai l'impression qu'elle y aurait eu davantage sa place. Donc voilà pour les déceptions, ou les semi-déceptions, ou les oui, mais... Et pour le reste, on a au pire du bon, du solide, du bien charpenté. Genre Neurostar de Jacques Barbéry, qui nous emmène refaire un tour du côté de Narcose, avec ses psys obligés de se fader les pires racleurs de cet univers, ses symbiotes peu ragoûtants, ses créatures fascinantes et ses tournées de scotch benzédrine. Ça fait bien 30 ans que Barbéry nous y ramène régulièrement, et pour l'instant on ne s'en lasse toujours pas. Autre écrivaine qu'on est content de retrouver au sommaire, Jo Walton. D'autant plus que c'est seulement, si je dis pas de conneries, sa deuxième nouvelle publiée en France. Et que c'est un texte de pure SF, très éloigné de ce qu'on a pu lire d'elle jusque-là. Une sorte de visite guidée d'une station orbitale qui suit une innocente pièce de monnaie passant de main en main et qui donne à voir quelques portraits et quelques conditions sociales très différents. On n'évite pas tout à fait le côté exercice de style, mais Jo Walton insuffle suffisamment d'humanité à ses personnages pour qu'on se prenne au jeu. S'il y en a une qu'on s'étonne de trouver au sommaire de l'anthologie, c'est Ada Palmer, romancière dont on devrait reparler ici même dans pas longtemps du tout, c'est-à-dire dès que j'aurai lu Trop semblable à l'éclair, mais qui n'écrit pas de nouvelles, sauf ce petit anneau gris ajouté à l'emblème olympique, juste une vignette de 4 pages, mais qui lui suffit à esquisser à grands traits tout un monde. Et du coup, à lire ce petit bout de texte, bah on n'ose même pas imaginer ce dont elle est capable sur 750 pages. Tant qu'on est du côté des auteurs étrangers, signalons aussi Bicycle Girl de Tally Thompson. Pour celles et ceux qui ont lu Rosewater, son excellente série chez J'ai lu Nouveau Millénaire, le titre devrait leur évoquer un certain personnage assez furtif dans le récit. Et donc oui, Bicycle Girl se déroule bien dans l'univers de Rosewater, mais 20 ans plus tôt. Si vous n'avez pas lu Rosewater, pas de panique, le texte fonctionne très bien tout seul. Et si vous avez lu Rosewater, vous constaterez comme moi qu'il soulève davantage de nouvelles questions qui n'apportent de réponses. Ce qui me fait dire, une fois de plus, vivement la parution du dernier tome de cette trilogie, c'est décidément l'une des choses les plus passionnantes qu'on a pu lire ces dernières années. L'anthologie offre également quelques très bonnes surprises qu'on n'attendait pas vraiment. Genre le cruciverbiste de Nicolas Martin. Oui, le Nicolas Martin de La Méthode Scientifique sur France Q, à qui il arrive donc, semble-t-il, de tâter du clavier et qui s'en sort plus qu'honorablement. L'histoire d'un verbicruciste, c'est-à-dire celui qui conçoit les grilles de mots croisés, qui perd son boulot et qui perd pied par la même occasion, qui s'enferme dans une forme d'obsession et qui va le conduire à la folie. C'est très bien foutu, avec juste ce qu'il faut de second degré pour faire passer les révélations finales. J'attendais rien de particulier non plus de La Grande Course au Noyau Mémoire de Félix Bruno, une écrivaine dont j'avais lu un premier roman très amateur il y a quelques années de ça, je crois même que j'en avais parlé ici, et puis plus rien depuis. Et ben là, c'est bon, elle maîtrise son sujet, la narration est impeccable, et elle se permet ici une nouvelle chute qui fonctionne vraiment bien. À quelques détails cosmétiques près, ça aurait pu paraître dans Galaxy dans les années 50, mais c'est le genre de SF qui fonctionne toujours aussi bien, même plus d'un demi-siècle plus tard. Terminons, avant que j'aille finir de cracher mes poumons, par mon top 3 du plus mieux meilleur de ces Utopiales 2019. À commencer par le texte qui ouvre l'anthologie, Une faute de goût de Christian Léourier. Là encore du classique dans sa manière de faire se rencontrer humains et extraterrestres dans le cadre d'une mission commerciale, mais l'originalité et la beauté du texte viennent du fait que... Non, mais je vais rien vous dire, en fait. Disons juste que c'est d'une finesse et d'une élégance folle, ce qui en soi est presque banal quand on considère l'ensemble de la carrière du monsieur. Un auteur qui a sensiblement moins de bouteilles, mais certainement pas moins de talent, c'est Michael Roche, qui en fait une fois encore la démonstration avec Avaler la Terre. Avec cette fois une écriture moins intimiste que ce que j'ai pu lire de lui précédemment, mais d'une précision qui me laisse absolument sur le cul. Là encore, je vais en dire le minimum pour vous laisser découvrir, mais... L'épaisseur qu'il donne à l'univers qu'il met en scène en 20 pages à peine, son cadre géographique, son contexte social, politique, culturel, et tout ça en abordant d'une manière vraiment originale l'archétype du détective privé, et sans oublier de raconter une histoire, bah putain, c'est balèze. Last but not least, l'anthologie s'achève avec une novella, La promesse du monstre, signée Claude Aiken. Alors, c'est pas toujours le cas hélas, mais là, on retrouve Claude Aiken en très grande forme, avec un texte de hard science assez pointu, où il est en gros question de biologie et de mathématiques. En soi, c'est intéressant, sans être complètement renversant non plus. En revanche, La façon dont il utilise cette expérience pour donner un éclairage singulier sur ses deux protagonistes principaux, c'est juste du très grand art, et du coup c'est du très grand Claude Aiken, et au final ça fait de La Promesse du Monstre une sorte de comédie romantique art science qui ressemble à rien d'autre mais qui est vraiment remarquable. Conclusion, et ensuite je retourne m'enrouler dans sous ma couette et finir de décéder par overdose de morphe dans mes sinus, Utopiel 19 est un très bon cru, un tiers décevant, un tiers convaincant et un tiers épatant. Alors, à 15€ le pavé, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je retourne mâchouiller des suppositoires et m'enfiler des aspirines dans le cul. Rendez-vous prochainement si je survis. D'ici là, je vous éternue amoureusement aux oreilles et soyez sages.